VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir et bienvenue à l'édition du 27 juillet 2015. Au sommaire ce soir.
Visite de Barack Obama en Éthiopie. Le président américain appelle à maintenir la pression sur le groupe terroriste somalien Al-Shabaab.
Côte d'Ivoire, troisième report du procès d'officier ivoirien fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo en rapport avec des troubles post-électoraux de 2010-2011.
Première apparition de l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa au sein de l'Assemblée nationale burundaise, on s'interroge à Bujumbura.
Après l'annonce d'une offensive contre le groupe État islamique, Ankara a bombardé des positions des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Après le Kenya, Barack Obama poursuit sa tournée africaine par l'Éthiopie. Le président américain a appelé lundi les pays d'Afrique de l'Est combattant les islamistes Shabab en Somalie à maintenir la pression sur les insurgés. À Addis Abeba, Barack Obama a salué le travail des troupes régionales engagées au sein de l'AMISOM, la force de l'Union africaine en Somalie, pour combattre les Shabab aux côtés de l'armée somalienne. Le président américain a rappelé les grands axes de sa politique vis-à-vis du continent, la lutte contre le terrorisme et les droits de l'homme. Retour sur cette visite avec Salwa Jaafari.
C'est la première visite d'un président américain en Éthiopie. L'accueil était à la mesure de l'événement. Addis Abeba s'est mise aux couleurs du drapeau américain. Mais au-delà des festivités, l'heure est grave. Quelques temps avant l'arrivée de Barack Obama, Mogadiscio était victime d'un nouvel attentat des Shabab. La question sécuritaire était donc inévitable.
La reprise du conflit dans la région qui a été déchirée par des conflits depuis si longtemps et a entraîné un grand nombre de morts, c'est quelque chose qui nécessite une attention urgente de la part de nous tous, y compris la communauté internationale.
Les défenseurs des droits de l'homme espèrent néanmoins que l'invité use de son poids pour apporter du changement. La coalition au pouvoir est régulièrement accusée d'étouffer les critiques. Sur la question de la liberté d'expression, le premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn n'a pas mâché ses mots.
Journalism has to be respected.
Le journalisme doit être respecté tant qu'il ne dépasse pas la ligne. Travailler avec des groupes terroristes violents n'est pas autorisé, même aux États-Unis. Et nous avons besoin d'un journalisme civilisé, comme culture et comme une profession.
Le point d'orgue de cette visite du président américain sera un discours au siège de l'Union européenne demain. Barack Obama a aussi participé aujourd'hui à un mini-sommet sur le Soudan du Sud.
Pour être tout à fait complet, le président américain Barack Obama s'est isolé lundi à Addis Abeba que la situation au Soudan du Sud, ravagée par 19 mois de conflits civils, continue de se détériorer. Il a appelé à un accord de paix entre belligérants dans les prochaines semaines. Le conflit sud-soudanais a déjà fait des dizaines de milliers de morts, selon des observateurs, et chassé plus de 2 200 000 personnes de chez elles.
De violents combats opposent l'armée tchadienne aux insurgés islamistes nigérians de Boko Haram sur des îles du lac Tchad. Affrontements confirmés par une source sécuritaire tchadienne à l'AFP. Ces combats font suite à un premier accrochage qui a eu lieu samedi entre les soldats tchadiens et insurgés à Midikoutou, une île du lac, faisant 6 morts et 15 blessés parmi les éléments de Boko Haram. Des combattants qui ont enlevé beaucoup de femmes et d'enfants dans leur fuite samedi, c'est ce qu'a affirmé la même source sans pouvoir préciser leur nombre.
3 personnes ont été décapitées dimanche dans l'extrême nord du Cameroun, des attaques attribuées à Boko Haram, selon des sources sécuritaires, rapporte l'AFP. Samedi soir, une kamikaze adolescente s'est faite exploser, tuant au moins 20 personnes et blessant 79 autres dans la ville de Maroua, extrême nord. Il s'agissait du 5e attentat suicide en 2 semaines.
La mission d'observation électorale de l'ONU a conclu ce lundi que le scrutin présidentiel au Burundi s'était globalement déroulé dans le calme, mais n'était pas libre, crédible et inclusif. Selon le rapport préliminaire de la mission que cite l'AFP, le scrutin avait été marqué par des violences et des entraves aux libertés d'expression et de la presse.
Toujours au Burundi, Agathon Rwasa, le leader incontesté de l'opposition, s'est présenté pour la première session de l'Assemblée nationale. Beaucoup de Burundais s'interrogent, mais M. Rwasa indique qu'il veut réclamer de nouvelles élections car il ne reconnaît pas les résultats des récents scrutins. Il avait obtenu 30 des 121 sièges de la nouvelle Assemblée, même s'il n'avait pas participé aux élections communales et législatives. On y reviendra dans la seconde partie de l'édition.
Au Congo-Brazza, des représentants de l'opposition et certains membres de la majorité ont ouvert hier à Brazzaville un dialogue pour prévenir un coup d'État constitutionnel au Congo. Excusez-moi. Alors que les partisans du pouvoir demandent un changement de la constitution permettant au président de briguer un troisième mandat.
Côte d'Ivoire, troisième report du procès d'officier ivoirien fidèle à l'ex-président Laurent Gbagbo en rapport avec les troubles post-électoraux de 2010-2011. Une nouvelle fois, l'avocat d'un des principaux prévenus ne s'est pas présenté. Les détails avec Eddie Isango.
L'audience a été renvoyée à une semaine plus tard, soit au 3 août. Le président du tribunal Tairoun Dembélé, visiblement agacé, a, selon l'AFP, souligné qu'il s'agissait d'un ultime renvoi de l'audience. La dernière fois, c'était le 21 juillet dernier. L'avocat de l'ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, commandant Anselme Sekayapo, poursuivi pour meurtre, avait brillé par son absence. Anselme Sekayapo, surnommé Seka Seka, les derniers accusés entendus par les tribunaux en juin, est poursuivi pour assassinat et blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. Il plaide non coupable. Avec lui, comparé à un autre homme fort de l'ancien régime, le commandant Jean-Noël Abbaye, poursuivi lui pour complot et désertion à l'étranger. Ses procès ouverts le 9 juin ont été interrompus plus d'une fois. Les avocats de deux piliers de l'appareil sécuritaire sous Laurent Gbagbo réclament des preuves ou, les cas échéants, l'exhumation du corps d'une victime en vue d'une autopsie. L'audience du lundi 3 août doit être consacrée aux dernières auditions de prévenus, aux réquisitions et aux plaidoiries selon les tribunaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président soudanais Omar el-Béchir, visé depuis 2009 par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour, est arrivé hier en Mauritanie pour un sommet sur la Grande Muraille Verte. Omar el-Béchir ne devrait pas être inquiété en Mauritanie, qui ne fait pas partie des pays africains signataires du traité de Rome.
Tension en Turquie après l'annonce d'une offensive contre le groupe État islamique. Ankara a bombardé les positions des rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak, qui a riposté en revendiquant un attentat suicide et en provoqué la mort de deux soldats turcs. C'est dans ce contexte que les États-Unis et la Turquie ont décidé de travailler conjointement à débarrasser du groupe État islamique le nord de la Syrie, à la frontière turque. Michel Joseph.
L'annonce a été faite par un responsable américain en marge de la visite de Barack Obama en Éthiopie. Le but est d'établir une zone débarrassée du groupe État islamique et d'améliorer la sécurité et la stabilité le long de la frontière entre la Turquie et la Syrie, a déclaré à l'AFP ce responsable ayant requis l'anonymat. La Turquie, longtemps accusée de complaisance vis-à-vis des organisations radicales en lutte contre le régime de Damas, a lancé ces derniers jours une offensive aérienne contre le groupe État islamique en Syrie après un attentat suicide qui a fait 32 victimes dans le sud du pays. De nombreux observateurs se demandent si la Turquie, qui a parallèlement bombardé des bases aériennes de la rébellion kurde du PKK, n'a pas surtout pour objectif de limiter les capacités des forces kurdes en Syrie et en Irak, plutôt que de s'attaquer réellement au groupe État islamique.
Au Yémen,
l'aviation de la coalition menée par l'Arabie Saoudite a frappé aujourd'hui par erreur des positions de forces pro-gouvernementales dans le sud du Yémen, faisant au moins 12 morts au premier jour d'une trêve de 5 jours destinée à faciliter l'aide humanitaire. Jean-Roger Bion.
L'un des chefs des forces gouvernementales a précisé à l'AFP que les avions de la coalition avaient effectué, entre autres, deux raids à Jebel al-Zeytoun, tuant 12 combattants et blessant 30 autres. Les raids saoudiens ont notamment visé des positions aux environs de la base aérienne d'Al-Anad, tenue par les rebelles chiites Houthis, dans la province de Lajj. Ailleurs au Yémen, les frappes aériennes se sont arrêtées, mais des combats continuent sur le terrain à Taiz et dans les environs d'Aden, dans le sud du pays. La pause, initiée unilatéralement par la coalition, a commencé à minuit heure locale pour permettre de secourir les civils durement éprouvés par 4 mois de conflit. Les rebelles qui se sont emparés l'an passé d'une grande partie du pays, dont la capitale Sanaa, avec l'aide de militaires restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, n'ont pas fait savoir s'ils acceptaient la trêve. Une précédente trêve de 5 jours à la mi-mai n'avait pas empêché la reprise de combats et une pause initiée par l'ONU à partir du 10 juillet ne s'était jamais matérialisée.
Au moins 10 morts, civils et militaires, et plusieurs blessés, tel est le bilan d'un attentat terroriste perpétré ce lundi dans l'état de Punjab en Inde. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les groupes de militants basés au Pakistan sont pointés du doigt. Les autorités indiennes ont renforcé la sécurité le long de la frontière.
Le président Barack Obama a vivement réagi aux critiques acerbes du Parti républicain contre l'accord nucléaire que les États-Unis et 5 autres puissances mondiales viennent de signer avec l'Iran. Voilà, c'est tout pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant à la Minute Éco, un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Camille Gros-Didier.
Les travaux d'installation de 4000 km de fibre optique sur l'ensemble du territoire guinéen d'ici à 2017 ont débuté à Dubreka, dans le nord de la Guinée. But de l'opération, connecter l'ensemble du territoire à la fibre optique à haut débit en 2 ans. Une opération chiffrée à 238 millions de dollars. Elle est financée à hauteur de 214 millions de dollars par la Banque chinoise d'import-export, la China Exim Bank, sous forme de crédit préférentiel accordé aux autorités guinéennes. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'État guinéen et le groupe technologique chinois Huawei. Il pourrait générer jusqu'à 20 000 emplois selon les autorités. Et puis, un coup de balai dans la fonction publique au Burkina Faso. Plus de 1200 fonctionnaires fictifs ont été rayés du registre des travailleurs burkinabés. Une opération initiée par les autorités de la transition. Leur masse salariale représentait environ 2,7 milliards de francs CFA de charges financières par an pour l'État.
Merci Camille pour la Minute Éco.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Ce soir avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Les clubs algériens de football ne sont plus autorisés à recruter à l'étranger, c'est ça?
Oui, et ce en raison de la crise financière qui a fait perdre au pays la moitié de ses revenus pétroliers. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Fédération algérienne de football. L'Algérie, qui tire plus de 95% de ses revenus extérieurs, est donc contrainte sans tarder de prendre des mesures d'austérité budgétaire. Mais les joueurs disposant d'un contrat pourront jouer jusqu'à la fin de leur engagement avec le club, a précisé la Fédération algérienne.
Rubrique transfert.
Jordan Ayew qui signe à Aston Villa, l'attaquant international ghanéen de Lorient, qui s'est engagé pour 5 ans avec le club anglais après avoir passé avec succès la visite médicale ce lundi. Selon les médias britanniques, le transfert avoisinerait les 12 millions d'euros. Et puis le gardien argentin de la Sampdoria de Gênes, Sergio Romero, s'est engagé pour les 3 prochaines saisons avec Manchester United. Passé par Monaco, le portier de 28 ans remplacera l'Espagnol Victor Valdés comme doublure de David De Gea, toujours dans l'attente d'un éventuel départ au Real de Madrid.
Parlons maintenant de la Coupe du Faso, le tenant du titre éliminé.
Oui, le RC Bobo a été éliminé lors des demi-finales de la 29e Coupe du Burkina Faso qui s'est jouée ce week-end. Le RC Bobo a été battu 3-1 par l'USFA lors de la première demi-finale jouée à Ouagadougou. Dans l'autre demi-finale à Bobo Dioulasso, l'ASF Bobo a pris le meilleur sur EFO 3-1 après prolongation. La finale qui opposera donc l'USFA à l'ASF Bobo, elle aura lieu le 5 août prochain.
Coup de chapeau aussi à l'AS Douane au Sénégal.
Grâce à sa victoire 2-1 face à la Linguère de Saint-Louis, le club a remporté le titre de champion du Sénégal à l'issue de la 26e et dernière journée du championnat disputée ce week-end. Je vous rappelle que l'AS Douane, qui a retrouvé l'élite 7 saisons seulement, remporte ainsi le 6e titre de son histoire. Le dernier, c'était en 2008. En revanche, ça va mal pour l'AS Pikine, le champion sortant, qui est relégué en 2e division.
Enfin, le Real Madrid est en forme.
Les Madrilènes ont battu l'Inter de Milan ce lundi à Guangzhou en Chine devant près de 40 000 spectateurs. C'était lors du tournoi amical International Champions Cup auquel participe aussi le Milan AC. Le Real de Madrid qui l'emporte 3-0, le dernier but inscrit par le Colombien James Rodriguez.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault, que l'on retrouve dans Sporama à 19h, temps universel.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin, Gaby Dorsil et Claire Morin-Gibourg en votre compagnie. Place au dossier du jour et c'est d'abord la visite en Éthiopie de Barack Obama.
Oui, le président américain poursuit sa tournée africaine en Éthiopie où il est arrivé après sa visite au Kenya. Pour faire le point sur ces deux escales, Idrissa Seloudia a joint notre confrère Dame Babou, journaliste, analyste politique et directeur de radio basé à New York.
On se rend compte que la liberté de ton que le président Obama exerce en Amérique en tant que président à la fin de son mandat, c'est la même liberté de ton qu'il utilise en Afrique. Il y a certaines vérités, il n'y a que lui qui ose les dire sans grande conséquence.
À quelles sont ces vérités-là?
Par exemple, vous avez entendu le président Barack Obama dire aux Africains, quels que soient les efforts que vous déployez pour développer le continent, tant qu'il y aura cette corruption à grande échelle, rien ne se passera. Le président Obama s'est permis même de donner l'exemple de Chicago pour dire que c'était une ville extrêmement corrompue. C'est important ça de le dire pour dire aux Africains qu'on ne vous montre pas du doigt comme ça parce que d'autres sont passés là. Et il y a aussi le fait que le président Barack Obama puisse dire qu'il n'exerce pas de la violence sur vos femmes et que le viol ou certaines violations de droits ne sont pas admissibles. Si c'était un autre président, ce serait totalement différent du point de vue de l'accueil.
Pour parler du Kenya, vous savez, et j'ai l'habitude de le dire, le président Obama est le premier lourd à être élu président dans le monde, et c'est en Amérique.
Exactement, et lui-même, il s'est permis de dire que je suis le premier Kenyan américain a été élu président des États-Unis pour prendre justement le prétexte de ça pour dire qu'il n'y a qu'une seule tribu qui vaille sur Terre, c'est les hommes entièrement, les hommes dans le monde entier. Il ne peut pas avoir de différence. Je pense que sa position de noir président américain, donc la première puissance mondiale, mais d'origine africaine, mais effectivement, comme vous dites, faisant partie d'une ethnie qui n'a jamais été élue nulle part dans le monde, il n'y avait que lui qui pouvait bénéficier de tant de circonstances favorables pour pouvoir dire la vérité, nous dire la vérité, nous, Africains.
Alors, il y a la lutte contre Al-Shabaab, mais il y a aussi les problèmes de bonne gouvernance et de démocratie. Et je crois qu'il n'a pas escamoté le débat, en quelque sorte, en Éthiopie.
Non, au contraire, je pense qu'il est parti justement pour dire ces vérités, que tant que nos pays ont des problèmes de bonne gouvernance à ce point, ils seront toujours des pays faibles économiquement, donc ils resteront le ventre mou du terrorisme, parce que le terrorisme n'a pas de nationalité, n'a pas de territoire, à la différence de la guerre froide. Cette fois-ci, le terrorisme ne cherche que des États partout dans le monde qui sont faibles, fragiles, qui n'ont pas les moyens de contrôler le territoire. Et je pense que c'est ce message-là que le président Obama est allé délivrer aux Africains.
Dame Babou, journaliste et analyste politique basée à New York.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Première apparition de l'ancien chef rebelle Agathon Rwasa au sein de l'Assemblée nationale burundaise. Alors que sa coalition Espoir des indépendants avait boycotté les récentes élections législatives et présidentielles, Rwasa a préféré siéger sans l'autre parti de la coalition pour donner de la voix à ceux qui l'ont élu, a-t-il déclaré. Cette première plénière était largement dominée par le parti présidentiel, le CNDD-FDD. Reportage de Christophe Kourounziza, notre correspondant à Bujumbura.
Surprise ce lundi matin dans l'hémicycle de Kiyobe, bien avant que la députée Immaculée Nahayo, la plus âgée, n'ouvre les travaux lors de la première session de l'Assemblée nationale, version troisième mandat de Pierre Nkurunziza, Agathon Rwasa, président du parti FNL, non reconnu par le pouvoir de Bujumbura, s'était présenté avec 2 heures d'avance. Mais les autres 12 membres avec qui il forme 30 parlementaires de la coalition Amizero ya Barundi ne se sont pas présentés. Pourquoi alors, un politicien qui a boycotté tous les scrutins législatifs et présidentiels, accepte-t-il de se présenter à la première session de l'Assemblée nationale burundaise, Agathon Rwasa?
Est-ce que faut-il abandonner à leur sort tous ces gens-là qui ont eu la confiance à nous et qui ont voté pour nous? Quand bien même les résultats qui ont été publiés ne sont pas si réalistes que ça. Ils ont droit à être représentés quelque part. Et tant que les négociations n'ont pas encore abouti, tout sera fixé par l'aboutissement du dialogue qui doit être mené entre les parties prenantes.
Un des responsables de l'autre formation politique avec laquelle Agathon Rwasa a formé la coalition affirme qu'il ne peut en aucun cas se présenter dans l'hémicycle de Kigobe, Tassien Sibomana.
Comme notre combat, comme notre coalition n'était pas basée sur des postes, mais était basée sur des principes, que sont notamment le respect de l'accord d'Arusha et de la Constitution, le refus du troisième mandat, des élections inclusives, transparentes, démocratiques et paisibles, et que tout cela avait manqué durant tout ce processus, il est inimaginable que nous puissions siéger sous le prétexte fallacieux que nous avons eu des voix alors que nous les avions refusées dès le départ.
Mais Tassien Sibomana avance également une deuxième raison.
C'est pour faire honneur à nos enfants, nos frères et sœurs qui ont été lâchement assassinés par quelques éléments de la police, de la documentation et de la milice Imbonerakure pour la simple raison qu'ils avaient manifesté contre le troisième mandat de Pierre Nkurunziza.
Le médiateur ougandais Yoweri Museveni a été obligé d'arrêter le dialogue qu'il avait initié avec le gouvernement et l'opposition quelques jours avant les élections controversées et boycottées par l'opposition. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burundi sur les ondes de la radio publique africaine 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Les responsables des administrations douanières du Togo et du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont retrouvés la semaine dernière à Lomé. Ils ont réfléchi sur la méthode la mieux adaptée pour limiter les fraudes douanières et faciliter le commerce transfrontalier. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
La participation des recettes douanières au PIB des pays ouest africains est en deçà de leur potentialité. Les fraudes sont monnaie courante dans les opérations de transit des marchandises entre le Togo et les pays de l'Interland. Issaka Assouman, le directeur général des douanes du Niger, témoigne sur le cas de son pays.
80% des importations à destination du Niger en provenance du Togo font l'objet de faux documents.
Pour accroître le système de sécurité des transactions et fluidifier les flux commerciaux, la responsable des services des douanes du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Togo se sont retrouvés la semaine dernière à Lomé. Kodjo Adeje, commissaire des douanes et droits indirects à l'Office togolais des recettes.
La plupart des frettes qui transitent par Lomé à destination de ces pays-là nous obligent à se retrouver pour sécuriser d'abord ces frettes qui vont vers ces États et fluidifier suffisamment la procédure pour aller à un développement du commerce transfrontalier.
À l'issue de la rencontre de Lomé, les responsables des douanes de ces quatre pays ont recommandé que des efforts soient accentués pour aller rapidement vers l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers, nous dit Kodjo Adeje.
Les quatre pays que nous sommes disposons du même logiciel pour gérer nos formalités douanières. Je voudrais parler de Sidonia. Nous avons migré à Sidonia World, le Burkina pareillement, les autres États sont sur cette voie aussi. Et il est très aisé de mettre ces systèmes-là ensemble pour pouvoir avoir une traçabilité, une rapidité du flux commercial que nous traitons entre nos États.
Au nom des recommandations figure aussi l'initiation au projet Les douanes, un réseau international de l'Organisation mondiale des douanes. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Les travailleurs ouest-africains veulent unir leurs forces pour défendre leurs droits. Des délégués venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Togo, étaient à Cotonou les 24 et 25 juillet pour poursuivre les réflexions afin de réussir cet important chantier pour les travailleurs africains. Écoutons le reportage de Peggy Ludovic Dagba.
Unité de lutte et solidarité internationale comme une des réponses aux agressions du système capitaliste contre les travailleurs et les peuples. C'est sous ce thème que les centrales syndicales des travailleurs de l'Afrique de l'Ouest se sont retrouvées ce week-end à Cotonou pour tenter de concrétiser leur rêve de s'unir afin de défendre leurs intérêts. Basile Bassolement, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso, nous parle ici de l'essentiel de ces revendications communes aux travailleurs de l'Afrique de l'Ouest.
La question de l'accord des partenariats économiques, la question des programmes d'ajustement structurel, le bradage du patrimoine national et ainsi de suite dans les différents pays. Donc voilà des questions comme ça qui nous interpellent, mais aussi le mode de gestion et la gouvernance de nos différents chefs d'État en termes de manipulation des textes fondamentaux dans nos différents pays. Nous estimons que l'organisation syndicale, à travers sa fonction principale qui est l'éducation, doit se donner les moyens d'éveiller les consciences des travailleurs et du peuple tout entier afin qu'ils prennent en compte dans toutes ces préoccupations, ces revendications, la nécessité de se libérer. Et la liberté ne se donne pas, la liberté s'acquiert à travers une lutte consciente et organisée.
Pour les CIECO de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, identifie formellement les agresseurs et parle ici du but de la rencontre de Cotonou.
Le but, c'est l'unité et le développement de la solidarité contre les agressions des institutions, le FMI et la Banque mondiale. Et dans nos pays que nous avons réunis, nous pensons que c'est la France qui est à la tête de cette agression contre nous, au Bénin, au Burkina, et j'en passe. Cotonou va décider de l'unité des pays, des syndicats, des confédérations des différents pays.
Mais pourquoi les travailleurs africains inaugurent-ils ce rêve de défendre ensemble leurs intérêts, basés seulement de la CGT Burkina Faso?
Les centrales syndicales prennent conscience que la force réside dans l'union. Ça fait à peu près la troisième rencontre où nous nous retrouvons pour discuter des préoccupations transversales et qui touchent l'ensemble des travailleurs dans nos différents pays. Et la priorité est mise sur la sensibilisation, la conscientisation et les échanges entre centrales syndicales des mêmes pays, de sorte à ce que les forces soient unies pour mieux traiter et porter au haut la voix de l'ensemble des travailleurs de chaque pays.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Et pour finir cette édition, Gabi, je vais partager avec vous cette triste nouvelle. Cécile, le plus célèbre lion du Zimbabwe, vedette du parc national du Wangé, en raison de sa grande crinière noire, a été tué après une chasse à l'arc. Un intermédiaire spécialisé dans les permis de chasse et un chasseur viennent d'être inculpés pour braconnage, selon l'ONG Zimbabwe Conservation Task Force.
Et ce qu'il faut savoir clair, c'est que les riches amateurs de chasse, majoritairement américains, sont prêts à payer des fortunes pour pister et tuer des buffles, grands félins, autres gros gibiers sur les terres africaines. La chasse n'est autorisée que dans les réserves privées et pas dans les parcs nationaux comme Wangé ou le Kruger en Afrique du Sud. C'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, assisté de Al Santos à la console. Présentation, Claire Morin-Gibourg et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le Monde Aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com. Les nouvelles dans un instant.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Dakar, sur 102 FM, 91.5 FM, Bujumbura. Raga FM, 90.5 Kisangani. Sabou FM, 96.6 Kindia, Guinée, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.